à ne pas tolérer, puisque le prophète Mohammed lui-même, à un moment donné, avait quelque part coexisté avec ces non-musulmans, mais il avait signé un pacte avec eux. Après cela, ils ont voulu s'immiscer dans les affaires de l'islam.
Alors, laissez la possibilité au père Gérald Meuret. J'ai l'impression que notre auditeur parle d'intolérance de la part des frères chrétiens, catholiques.
Je n'ai pas bien capté ce qu'il a dit, mais bien sûr, s'il y a une immigration dans des terres qu'on connaît traditionnellement comme chrétiennes, on doit demander aux gens qui arrivent le respect de nos lois et de notre organisation politique, et c'est un défi pour les autorités. Ça ne signifie pas qu'on est en contre d'une immigration, mais ça doit impliquer vraiment une coopération, parce que ce que nous voudrions éviter, que nos sociétés chrétiennes par histoire, pas nécessairement par la loi, soit brisées ou soit détruites par une nouvelle loi de charia qui est complètement au contraire des lois des pays d'Ouest.
Ok, alors un autre auditeur qui nous appelle d'où, je ne sais pas au juste, mais c'est Gabriel Kanjo. Gabriel, vous avez l'antenne.
Oui, bon, avec ce dialogue, de ma part, je trouve que ça ne peut rien aboutir, ça ne peut rien donner comme solution, de par que chaque église, pour le moment, a ses objectifs bien prédéfinis. En plus de cela, à ne pas oublier que les leaders aujourd'hui des églises sont devenus des grands commerçants, des grands entrepreneurs. Alors, comment pouvez-vous me montrer, ou dans quelle situation pouvez-vous me montrer qu'un dialogue entre chrétiens et musulmans, là où ils n'ont pas des objectifs communs, peut aboutir à quelque chose?
Merci.
À mon niveau, à mon entendement, je pense que ce dialogue, c'est juste pour chercher quelque chose, détromper un peu la vigilance des gens, ainsi de suite. Alors qu'en réalité, ça n'aboutira à rien.
Okay.
Un musulman ne peut pas accepter les objectifs d'un chrétien, et un chrétien ne peut pas accepter les objectifs d'un musulman.
Ok, alors, qui veut répondre à la question, Fidèle ou le père Meuret?
Je peux y aller. Je crois que le 21e siècle, nous sommes en train de dire qu'il y a une grande croissance, une prise de conscience de ce qu'est l'humain. Je vous respecte parce que je vois en vous moi-même. Malgré nos différences, nous cherchons le point commun qui fait que nous pouvons habiter, et nos conflits, nous travaillons sur cela. L'islam et le christianisme viennent des mêmes routes et avec beaucoup trop de divergences. Mais nous disons, en regardant comment ces deux grandes religions cohabitent, il y a des excellents exemples là-dessus. Le Sénégal en est un, où le président sénégalais qui était protestant, chrétien, Léopold Sédar Senghor, a été élu dans un pays à 90% musulman. Idrissa, tu es du Sénégal, tu peux me corriger là-dessus. Mais c'est un exemple qu'on peut cohabiter, qu'on peut avoir des objectifs différents, mais à cause de ce que nous avons en commun, et c'est ce que nous devons toujours chercher, qu'est-ce que nous avons en commun qui fait que nous pouvons cohabiter. De plus en plus, le concept vient de cohabitation. Les différences, nous pouvons les minimiser, nous allons vivre avec nos différences, mais nous mettons l'emphase sur ce qui nous met tous ensemble.
Merci Fidèle. Mon père, puisque Fidèle a parlé de Léopold Sédar Senghor, le premier président du Sénégal, catholique, il est vrai, dans un pays essentiellement musulman, Senghor aimait à dire qu'il ne faut pas du tout ne pas reconnaître nos différences. Reconnaître nos différences, c'est de la complémentarité et ça nous permet de nous enrichir mutuellement. Et je crois que le pape, justement, dans sa façon de voir les choses et d'aborder les choses, a tendance à faire preuve de tolérance vis-à-vis même de ceux qui semblent violer la doctrine ou la religion catholique, n'est-ce pas?
Bon, ça c'est une grande question parce que c'est la question de donner la communion aux gens qui sont dans des deuxièmes mariages, un mariage adultère, et aussi la question sur comment on doit traiter les gens homosexuels. Et en fait, le pape dit qu'on doit voir dans tous les gens nos frères et sœurs, les gens qui doivent recevoir respect et amour. Mais le pape, certainement, n'est pas en faveur de changer la doctrine de l'Église, parce qu'en fait, la doctrine de l'Église, c'est la parole de Jésus proclamée et expliquée par ses représentants ici sur la terre, les évêques, le pape et les prêtres qui travaillent pour promouvoir l'Église catholique. Au niveau de la relation entre musulmans et catholiques, vraiment, le pape est très concerné par le ISIS, le ISIS en Syrie, en Irak, et ce qui...
L'État islamique, le groupe État islamique.
Exactement, parce que vraiment, leur vision signifie tuer ou chasser les chrétiens des terres où ils sont là depuis 2000 ans. Et cette expérience d'intolérance... nous appelle à vigilance et on doit dire que cette vision fanatique est une mauvaise chose. Nos chers amis en Nigeria connaissent cette réalité tristement.
Merci mon père. Alors nous avons Aymar Dimi, on me signale qu'il n'est plus là. Alors fidèle, j'allais demander au père de nous parler justement de ce prêtre, de ce missionnaire que le pape devrait canoniser aujourd'hui. C'est une situation plutôt controversée, père Gérald Murray.
Oui, il y a une controverse, mais je dirais que c'est une petite section de la vie intellectuelle et médiatique, parce que la grande majorité des Américains apprécient, c'est le missionnaire Junipero Serra, qui était un franciscain, de 18e siècle, qui habitait il était de Mallorca, en Espagne, et il a voulu être missionnaire. Il était au Mexique, et après, il a décidé de suivre les missions au nord de Californie, qui, à cette époque-là, appartenait à Espagne. Et c'est lui qui a fondé les missions, les fameuses missions de San Diego jusqu'à San Francisco, et beaucoup de missions où ils ont établi pas seulement une église, mais aussi un type de ville ou de village où les Indiens convertis peuvent être catéchisés, aider à développer l'agriculture et la vie, développer la vie plus moderne que la vie qu'ils avaient. Et vous savez qu'il y a toute une section des académies qui rejettent le christianisme comme une influence pour le bien dans la vie des gens. Alors ils font beaucoup de plaintes que ce prêtre a privé les Indiens de leur religion et de leur vie intérieure. Mais en fait, je dis, la mission de Christ n'est pas d'écraser les gens, mais de les élever. Et vraiment, nous avons dans l'exemple de Junipero Serra quelqu'un qui a laissé sa terre et la vie assez aisée en Espagne pour proclamer le Christ, baptiser les gens et leur donner la possibilité de développer une vie qui est plus, adapte pour les gens. C'est une vie où on peut vivre de ses travaux et qu'on est vraiment apprécié. Alors, c'est ce que je vois dans ce grand saint qui sera canonisé plus ou moins dans une heure et demie.
J'aimerais y revenir dans un instant, mais on me signale qu'on a de nouveau en ligne Aymar Dimi. Aymar?
Oui, bonsoir, Aymar. Bonsoir, Justin. Bonsoir à tous les auditeurs.
Bonsoir. Allez-y.
Oui, j'aimerais poser une question à Rodrigo, c'est la meilleure auditeur en ligne, est-ce que c'est possible là?
On vous écoute.
Oui, mais j'aimerais savoir, mais quelle est cette vision que le pape a vouloir apporter, reviser le dollar, le plan, donc vu que...
Allô, j'ai pas très bien compris, mais... J'ai en face de moi ce que Aymar a écrit sur Facebook. Il faut reconnaître que le pape n'est pas un adepte de la mentalité américaine. Il se présente comme un pape de terrain qui défend les personnes marginalisées des périphéries que les systèmes économiques isolent. Les États-Unis sont au centre exemple à cause de leur consumérisme. C'est aussi et d'abord le pays qui se croit au centre de tout. Le pape a la vision que le dollar écrase tout et que l'économie américaine domine le monde sans jamais penser aux autres, ce qui a le don de l'agacer. Le discours du pape au Congrès, c'est pas à New York, mais c'est à Washington, sera l'un des plus symboliques de son pontificat. Alors, réaction, mon père est fidèle.
Oui. Bon, non, c'est vrai que le pape critique matérialisme et consumérisme. Mais à la fois, aujourd'hui, il a loué les évêques américains et le peuple américain pour tout ce qu'ils ont fait pour aider les immigrés qui sont venus en Amérique. Et vraiment, je suis très conscient, spécialement dans ma dernière paroisse, où il y a beaucoup d'immigrés africains. Ils arrivent ici pour trouver une opportunité qui souvent est niée à ces gens-là dans leur pays d'origine. En fait, souvent, ce que j'ai vu, les gens travaillent beaucoup ici pour envoyer l'argent à leur famille, au pays, et ce n'est pas seulement en Afrique, mais dans tous les autres pays. Alors, c'est vrai qu'ici, il y a la tentation de vivre pour être riche, mais dans mon expérience, la majorité des gens qui travaillent dur voudraient aider leur famille et leurs proches par moyen de ce qu'ils peuvent gagner aux États-Unis.
Fidel?
Alors, nous devons aussi reconnaître qu'il y a un grand bond en avant en regardant comment les riches américains commencent à comprendre cet appel du pape à penser aux pauvres. J'enseigne un cours à l'université de Juniata sur les fondations. Les ONG. Il y a des gens comme Bill Gates, il y a tout un groupe de millionnaires qui sont en train de s'investir maintenant dans le social. Donc, nous devons reconnaître cela, que c'est vrai qu'il y a des Américains comme partout au monde, des riches qui sont trop égoïstes, mais il y a aussi tout un mouvement qui est en train de se faire où les riches prennent conscience de se dire « on en a tellement trop ». Il faut maintenant regarder comment notre argent, notre investissement sert la cause du monde. Bill Gates est dans ma tête, il est en train d'investir pour combattre la malaria, pour que le monde, surtout africain, soit sans malaria. Donc il y a cette conscience, éveil de conscience du riche américain. Nous ne pouvons pas toujours le regarder 20 ans qu'il y a, nous devons regarder aussi les évolutions positives dans les têtes des milliardaires américains.
Fidèle, nous avons Bakary Keïta en ligne. Bakary, vous avez l'antenne.
Oui.
Allez-y. Allez-y.
Moi, je crois que la mauvaise cohabitation des chrétiens et des musulmans, est-ce que cela ne dépend pas de leur niveau de compréhension? Parce que si je prends l'exemple sur le Mali, les chrétiens et les musulmans, vraiment, se cohabitent, quoi. Par exemple, lors des maouls, Cheikh Ousmane Madan invite les chrétiens, et aussi lors des fêtes chrétiennes, lui aussi, il se rend quand même chez les chrétiens pour les saluer. Ensuite, est-ce que le pape-là a déjà été dans une mosquée?
Merci, merci beaucoup, Bakary. Je devrais dire à nos invités que, en regardant les réactions Sur Facebook, j'ai vu des auditeurs qui demandaient au pape d'aller en République centrafricaine et que son aide est nécessaire là-bas. Et il y a aussi des auditeurs qui demandent au pape de dire clairement à Obama, bon, je ne vais pas citer par exemple les propos d'Achille Semaoré, et là, bon, comme tant d'autres auditeurs, le problème ou la question du mariage homosexuel revient sur le terrain. Et naturellement, ils disent que le pape devrait faire la leçon à Obama. Qu'est-ce que vous en pensez, mon père ?
Il a parlé de, il est venu en Amérique pour défendre l'institution du mariage et aussi pour défendre la vie innocente. Je pense que les Africains nous ont montré en Amérique, en Europe, qu'ils ont une bonne compréhension que c'est impossible que deux hommes se peuvent marier et que c'est exactement contre la nature et contre Dieu de faire ce type de loi. Je sais qu'il ira en Kenya et aussi en République centrafricaine. Le pape représente exactement la sagesse divine et l'expérience humaine que le mariage, c'est la fondation de la société, le fondement de tout ce qui est bon. Et il y aura la grande réunion des familles à Philadelphie ce samedi dimanche, le pape va prêcher. Oui, nous avons, je dirais que c'est maintenant, comme le cardinal Sarah de Guinée, il a dit que l'Afrique a sauvé la Sainte Famille au commencement quand Jésus était en Égypte. Et maintenant, c'est l'Afrique qui va sauver la famille parce qu'il donne le bon exemple et la bonne doctrine.
Maintenant, Ousmane Doumbia. Ousmane ? Allô ?
Allô ?
Ousmane, vous avez l'antenne. Ousmane ? Ah, on a quelques problèmes techniques. Fidèle, qu'avez-vous à ajouter à ce que vient de dire le père Gérald Murray sur ce que les Africains attendent du pape concernant la République centrafricaine et aussi... Oui, quelques problèmes techniques. Bon, on va essayer d'avoir l'auditeur. Il est là. Alors, Ousmane, Fidèle, allez-y.
Oui, ce que les Africains doivent attendre du pape est que le pape part en Afrique avec ce message pastoral. C'est un pasteur d'église. Il n'est pas, si vous le comparez au pape Jean-Paul II ou bien aux autres papes, celui-ci vient d'une petite paroisse à Buenos Aires. Et il monte tous les échelons de l'Église jusqu'à devenir là-bas. Mais il a cette vision du monde, que le monde est une paroisse où lui se trouve comme le pasteur. Ainsi, comme pasteur, il va derrière ses paroissiens. Donc, il ne vient pas avec beaucoup trop de langage théologique, mais c'est surtout pour dire, écoutez, vous êtes dans une bonne marche, continuez-en. Et vous êtes en train de pleurer, il vient s'asseoir avec vous pour pleurer ensemble. C'est le travail d'un pasteur, c'est le travail d'un curé de paroisse. C'est ça. Et les Africains, nous sommes habitués à voir les curés de paroisse dans nos maisons. Ils viennent partager avec nous de l'eau, ils passent voir telle personne. Je crois que c'est l'image qu'il amène en lui. Ce n'est pas l'image d'un autocrate ou bien de quelqu'un plus loin de son,
merci.
De son peuple.
Merci,
mais
Fidèle.
C'est surtout quelqu'un qui est plus proche.
Le dernier mot va revenir au père Gérald Murray. Mon père, on a parlé de l'humilité et de la simplicité de ce pape. Et aussi de ses positions en flèche sur pas mal de questions controversées. Est-ce dû au fait qu'il vient du tiers-monde?
Je pense que son expérience en Argentine est un aspect de sa personnalité fondamentale. Mais je pense que la fondation de sa personnalité, c'est vraiment le désir de suivre le Christ. Et c'est toujours le message qu'il nous donne. Pour savoir comment on doit vivre dans ce monde, on doit contempler, méditer ce que Jésus a fait, ce qu'il a dit, et essayer de l'imiter, spécialement envers les pauvres, les malades, les gens qui sont en détresse. Comme Jésus a fait beaucoup de miracles, nous devons offrir ce que nous pouvons pour les gens en détresse. Et c'est pas comme en politique, c'est vraiment comme a dit notre invité, il est pasteur, et comme pasteur, il veut que tous les brebis soient reçus dans le ciel et qu'ils peuvent louer Dieu pour toujours, pour l'éternité.
Merci, merci beaucoup mon père. Alors c'était le père Gérald Murray, docteur en droit canon et curé de la paroisse Sainte-Famille à New York, et Fidel Ayou Lumea, président du conseil congolo-américain pour la paix et le développement dans la région de Washington. Merci à Joselle Mauricien de l'autre côté de la vitre, Idrissa Seloudia pour le dialogue des religions, VOA Afrique.